J'ai retenu pour le culte de ce dimanche matin, au livre des Actes, au chapitre 28, les versets 14 à 31. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et à trois tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Après notre arrivée à Rome, le centenier livra les prisonniers au commandant, mais on permit à Paul de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison et de Jérusalem livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans sa maison. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres restèrent incrédules. Comme ils se retiraient, en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ces mots. « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point, vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, eux, ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et dans le recueil Louange et prière, nous allons chanter le cantique 254, « Au Seigneur, ta voix m'appelle », le cantique 254, les strophes 1 à 5. Je vous invite à vous lever. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà en nos cœurs. Nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Alors Seigneur, parle-nous, nous t'écoutons. Quand on lit le Nouveau Testament dans son intégralité, on s'aperçoit qu'il est en fait dominé par deux personnages, n'ose pas dire deux vedettes, Jésus de Nazareth et Paul de Tarse. Mais si nous mettons en parallèle ces deux existences, on constate, et c'est un peu étrange, que sur la mort de Jésus, nous sommes abondamment renseignés. Les évangiles, en effet, accordent une place considérable à la mort de Christ. Les récits de la Passion tiennent dans chaque évangile une place extrêmement importante et, d'une certaine manière, disproportionnée par rapport au ministère public du prophète de Nazareth. Il n'en va pas de même en ce qui concerne Paul. Quand est-il mort? En quel lieu? Dans quelles circonstances? Autant de questions qui, dans le Nouveau Testament, restent entièrement sans réponse. Alors, bien sûr, les vestiges de la littérature chrétienne primitive, ainsi que la vénération précoce de son martyr, attestée par l'archéologie, nous permettent de penser raisonnablement que Paul est sans doute mort en témoin de la foi, à Rome, vraisemblablement, peut-être victime de la persécution de l'empereur Néron. Sans doute, peut-être, vraisemblablement. Voilà. Autant de mots qui constituent ce que l'un de mes maîtres à l'université appelait les cache-misères de l'historien. Des mots que l'on emploie quand on ne possède aucune certitude. Et l'on se dit que les Actes des apôtres, rédigés par Luc, auraient dû nous raconter la fin du pèlerinage terrestre de l'apôtre des nations. Or, vous venez d'entendre la finale de ce livre. Luc reste entièrement muet au sujet de la mort de Paul. Pourquoi Luc, qui est un admirateur de Paul, a-t-il fait silence sur la disparition de son héros? Au sujet de sa mort, il ne pouvait pourtant pas être dans l'ignorance. Eh bien, chers amis, je fais l'hypothèse, c'est une hypothèse, que Luc sait, qu'il sait de science certaine ce qu'il en est de la mort de Paul, mais que son silence sur le trépas de l'apôtre est délibéré. Oui, il veut se taire à ce sujet. Et non pas parce qu'il y aurait des choses à cacher, comme si Paul, par exemple, livré au pouvoir impérial, avait été victime de règlements de compte internes à la communauté chrétienne. Luc aurait alors jeté un voile pudique sur des événements peu glorieux pour l'Église qui n'auraient pas été à la hauteur de la fraternité qu'elle affiche et qu'elle revendique. Il y aurait autour de la mort de Paul des secrets analogues à ceux qui, aujourd'hui encore, entourent la mort de Jean Moulin. En fait, je dirais que Luc sait bien ce qu'il fait en achevant ainsi son ouvrage sans rien nous dire sur la mort de Paul. En effet, la fin d'un livre est d'une importance capitale. Le message ultime livré par l'auteur, c'est un seuil, c'est un sas qui fait passer du monde du récit, du monde du texte, au monde du lecteur. Oui, une fois le livre fermé, on revient dans la vie. Mais on y revient riche d'un enseignement, riche de sensations, riche d'une ouverture sur l'avenir. Alors, puisque nous sommes sur le seuil, il vaut la peine d'analyser un peu en détail cette finale du livre des Actes. Luc, en effet, qui est un très grand écrivain, nous présente quatre scènes, j'allais dire quatre vignettes. L'arrivée de Paul à Rome, deux entretiens et un discours terminal. Voilà, quatre vignettes, quatre tableaux. Premier tableau, l'arrivée à Rome. Paul est prisonnier. Il a été arrêté au temple de Jérusalem comme perturbateur de l'ordre public, déféré devant les autorités d'occupation. Il a fait appel à César en sa qualité de citoyen romain. Et maintenant, il doit comparaître devant le tribunal dans la capitale de l'Empire. C'est donc un captif qui entre dans la ville. Le paradoxe, car il y a paradoxe, c'est que Luc nous décrit en fait une joyeuse entrée, l'arrivée solennelle d'un souverain en sa bonne ville. Des frères dans la foi viennent à la rencontre de Paul et c'est entouré d'un cortège plein d'allants que Paul entre dans la cité. Comme si, pour l'apôtre, était en train de se rejouer ce qui s'est passé pour Jésus au matin des rameaux, une entrée festive et allègre, quasiment triomphale, dans la cité de Sion. Et l'on comprend alors que Paul reprenne courage. Il fait irruption dans la ville par excellence, sous le signe d'une grâce victorieuse qu'il établit dans la confiance et dans la joyeuse action de grâce. Deuxième tableau. Paul, qui bénéficie d'un régime plus proche de l'assignation à résidence que de l'incarcération, reçoit à domicile une délégation, nous dit Luc, une délégation de notables juifs. Ce sont en fait ceux qui administrent et animent les associations cultuelles juives de l'époque, les synagogues. Et à leur intention, Paul fait son apologie. Bien sûr, il doit se justifier. Il n'a certainement pas une bonne réputation dans le monde juif de l'époque. Et avec l'habileté d'un maître de la parole, d'un grand rhéteur, il a soin d'abord de disculper les Romains, de les exonérer de toute responsabilité en cette affaire. Il rappelle également sa propre fidélité à la religion des pères, histoire de se concilier les Juifs présents à l'entretien, et il évoque l'espérance d'Israël. Voilà. Il leur explique qu'il a reconnu en Jésus le Messie. Paul, en effet, est passé d'un judaïsme de type pharisien à un judaïsme de type messianique. Cette prise de position est légitime et elle peut susciter l'attention d'autres juifs. Les seuls que Paul met en cause, les seuls qu'il attaque directement, ce sont les excités de Jérusalem dont il dit avoir été la victime. Et on le sait, les absents ont toujours tort. Quant à ceux qui sont présents à l'entretien, Paul est prêt à prolonger le dialogue avec eux s'il désire en savoir plus sur ses propres convictions de foi. Alors tout est prêt pour le troisième tableau, un nouvel entretien avec des notables juifs, mais là, la posture de Paul change radicalement. Ce n'est plus un accusé qui parle, il se met à proclamer l'Évangile, rendant témoignage au royaume de Dieu, parlant de Jésus à partir de la loi et des prophètes. Et bien évidemment, son discours divise. Les uns y adhèrent, les autres refusent d'y croire. Et pourquoi la prédication paulinienne recueille-t-elle finalement si peu d'écho? Pourquoi n'est-elle pas un triomphe? C'est Paul lui-même qui nous donne la réponse. Mais dans l'Épître aux Romains, il dit « c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement ». Une partie, pas tout Israël, une partie. Et cet endurcissement, il est d'ailleurs déjà évoqué par le prophète Ésaïe que Luc se plaît à citer. Les fils d'Israël, leur cœur s'est épaissi. Il s'est noyé dans la graisse. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Mais ce qui arrive à Paul, cette incapacité à faire l'unanimité parmi ses frères, à ses yeux, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas un accident, encore moins une tragédie ou une malédiction. Bien au contraire, c'est l'occasion pour Paul de se tourner vers les païens, vers les Romains, et d'élargir ainsi le champ de la mission. Alors Luc peut brosser un quatrième et dernier tableautin dans lequel, justement, il nous dépeint comment la mission de l'Église devient universelle, car désormais, Paul s'adresse à tous. Il proclame le règne de Dieu et enseigne au sujet de Jésus. Car évangéliser, c'est bien parler du message, l'Évangile, et du messager, Jésus. Et l'auteur du livre des Actes précise que Paul recevait tous ceux qui venaient le trouver. Voilà, Paul reçoit à la maison. Et là encore, il y a un paradoxe. Cet homme est prisonnier et sa porte est pourtant grande ouverte. Il fait bon accueil aux uns et aux autres, à tous ceux qui sont en quête de sens et de vérité. Et le lieu de la mission, ce n'est plus le temple, ce n'est pas la synagogue, ce n'est même pas le forum, la place publique, c'est la maison, le lieu de la vie banale, le lieu de la vie ordinaire. Oui, l'Évangile, il est fait pour résonner au plus concret de l'existence des hommes, dans les lieux et dans les temps de la vraie vie. Je pensais à ce qu'écrivait Madeleine Delbrel, cette chrétienne qui a passé sa vie à Ivry, au temps où Ivry était une banlieue rouge, où elle a vécu comme assistante sociale et où elle a voulu témoigner de l'Évangile, très simplement, dans une vie d'enfouissement et de présence au monde. Elle a écrit un beau livre qui s'appelle « Nous autres gens des rues ». Et elle écrit « Les gens des rues, ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire, qui sont des célibataires ou des mariés ordinaires, qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Oui, ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leurs portes qui s'ouvrent sur la rue. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre mission. Oui, pour Paul, le lieu de la mission, c'est cette maison d'arrêt. Et le livre, ainsi, s'achève sur le portrait d'un homme, apôtre de Jésus-Christ, témoin de l'Évangile, figure exemplaire de l'évangélisation. La fin du récit est donc une fin délibérément inachevée, une fin provisoire, et en ce sens, la clôture du récit dans le livre des Actes est paradoxale encore. Elle met en scène un prisonnier, mais la clôture du texte est une porte ouverte, grande ouverte, sur trois questions. Trois questions qui se posaient au premier temps de l'Église et qui se posent encore à la conscience chrétienne d'aujourd'hui. Première question, fondamentale. Qu'en est-il du peuple juif et de sa destinée finale? Au-delà de l'enseignement du mépris, il faut en revenir, frères et sœurs, aux intuitions pauliniennes. Sur ses frères, Paul ne prononce aucune parole de malédiction. Certes, une partie d'Israël a rejeté sa prédication, et cela a conduit Paul à se tourner vers les païens. Mais l'annonce de l'Évangile aux nations, dont nous sommes les bénéficiaires, eh bien cette annonce de l'Évangile ne signifie pas pour autant le rejet d'Israël par Dieu. L'Église ne se substitue pas au peuple de la première alliance. Les enfants d'Israël qui restent fidèles à la loi de Moïse sont bénis de l'Éternel, dont les dons sont sans repentance. Et l'existence conflictuelle, difficile, tragique même, de l'Église et de la synagogue signifie, eh bien, tout simplement, que le royaume n'est pas encore advenu, que l'histoire reste ouverte, inachevée, jusqu'au rassemblement final, lorsque tout Israël sera sauvé. En attendant, c'est une invitation pressante, adressée à tous ceux qui se réclament du Juif Jésus, de porter sur le peuple hébreu, sur les Juifs, un regard de respect et d'estime. Deuxième question. D'actualité, elle aussi. Jusqu'où la parole de Dieu ira-t-elle? En effet, si pour Paul, Rome est un point d'arrivée, il reste que le terme prescrit à la mission dans les Actes, ce sont les extrémités de la terre. Et la finale du livre marque un point de départ. Le champ de la mission est grand ouvert, et il l'est encore aujourd'hui. Alors bien sûr, pour Paul, ces extrémités de la terre, il s'agissait peut-être de l'Espagne ou des confins du Danube. Et au fil de l'histoire, ces extrémités, elles ont été sans cesse repoussées. Mais aujourd'hui, elles ne sont peut-être plus à comprendre dans un sens étroitement et uniquement géographique. Si l'Évangile a pour vocation d'être proclamé jusqu'aux extrémités du monde, eh bien, il convient de prendre en compte de nouvelles frontières, les frontières sociales, intellectuelles, culturelles. Et nous voilà, nous, invités à nous porter aux frontières, parce que l'Église, elle se pense, elle se comprend, non pas à partir de son centre, mais de ses périphéries. Et enfin, troisième et dernière question, qu'en est-il des témoins de l'Évangile ? Car Luc, et j'en reviens à mon introduction, Luc aurait pu raconter la mort de Paul et célébrer son martyre, comme il l'a fait pour Étienne, lapidé aux portes de la ville. Il est toujours tentant de faire l'éloge des héros, des grands hommes, en donnant à entendre leurs dernières paroles propres à nous édifier. Mais voilà, le christianisme n'a pas vocation au culte des saints, et encore moins à celui de la personnalité. Peu importe, finalement, de connaître les circonstances du décès de Paul. En dépit de son génie, Paul est un serviteur quelconque, un parmi tant d'autres. Oui, un serviteur, et c'est cela qui compte. En ce sens, en nous parlant de Paul, la finale du livre des Actes nous propose le modèle du témoin de l'Évangile, un être qui s'engage et qui prend la parole avec, nous dit Luc, une entière assurance et sans entrave. Oui, tels sont les derniers mots de ce livre. Cette expression, elle désigne le courage de celui qui prend la parole, sa capacité à oser une parole vraie. Elle désigne aussi la confiance que le témoin place en celui qui l'envoie. Oui, frères et sœurs, parlez avec assurance et liberté pour les témoins de l'Évangile. Voilà tout un programme. Amen.